Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions présentée par le pasteur Gilberto Araujo, qui nous conduit aujourd'hui dans la sixième causerie. Sur ce, je lui laisse la place.
Mes chers amis, bonsoir à tous. C'est une joie de vous rencontrer encore ce soir. Je sens que depuis quelque temps, nous devenons comme des amis. Je vois certains visages qui me sont familiers maintenant. Et j'espère aussi qu'à chaque soir, comme nous l'avons souhaité depuis le commencement, qu'au lieu de sortir d'ici avec plus de questions que de réponses, d'une certaine manière, Dieu nous a aidé à vous apporter certaines questions et deux mots d'espoir. Alors, cet après-midi, j'ai pu appeler encore à la maison et pour ma grande joie, j'ai entendu une voix de l'autre côté. Donc, j'étais assuré que ma femme et ma fille sont bien rentrées en Afrique du Sud. Ma fille est encore pour 2 ou 3 jours pour profiter davantage de la compagnie de sa maman parce qu'elle rentre dimanche vers le Brésil. Lundi, elle commence à donner des classes. Elle est maîtresse de l'anglais et elle essaye, n'est-ce pas, aussi de faire avec son français. Et ma femme doit continuer son travail en Afrique du Sud, mais elles ont profité pour vous souhaiter aussi leur, disons, les plus chaleureuses amour fraternel. Elles ont été très gâtées pendant les jours qu'elles étaient ici. Comme vous l'avez vu, ma femme est très, très quiète, n'est pas du genre trop bavard, mais c'est comme ça que Dieu m'a donné un cadeau. Et toujours dans la maison, il faut que quelqu'un, n'est-ce pas, bavarde plus et l'autre soit un peu plus silencieux, n'est-ce pas vrai? Alors, ma femme, à un certain moment, vous n'allez pas la reconnaître. Et moi, je suis celui qui reste, n'est-ce pas, silencieux. Mais par contre, dans d'autres situations, c'est le contraire. Et quand il s'agit de parler publiquement, ma femme, elle s'éteint. Elle s'assoit, elle est du genre d'écouter et jouir. Mais quand elle est en famille, vous n'allez pas la reconnaître. C'est le contraire. Moi, je suis plus, n'est-ce pas, disons, timide, silencieux, et elle bavarde tout le temps. Mais c'est comme ça l'équilibre que Dieu nous apporte. Alors, elle était très contente et remercie Dieu pour votre amour fraternel et la façon comme vous l'avez accueilli à elle et à notre fille. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui vraiment est devenu l'un des le plus passionnants et aussi qui apporte pas mal de confusion dans l'esprit des gens. Je ne sais pas si c'est de la tradition ou du folklore français, mais il est dit que la sœur à Napoléon, une fois, elle a dit en mourant, « Il y a 2 choses dans la vie qui sont sûres. D'abord, la mort. Ensuite, les impôts du gouvernement. » Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, la tradition, c'est du folklore, mais ils disent, « Mais certainement, elle a raison. » Au moins par rapport à la mort. Je ne sais pas par rapport aux impôts, mais la mort, oui. Et comme nous l'avons bien expliqué au commencement, dans la, disons, théorie de l'évolution, la mort a un certain sens, une certaine signification. Par contre, pour nous les chrétiens, la mort a un sens différent. Et ce soir, nous aimerions, avec l'aide de Dieu touchée sur ce sujet qui est non seulement controverse, mais aussi très sensible. Pourquoi? Parce que je ne connais personne qui n'est pas lié à quelqu'un avec qui il aimait et qui n'est plus. Et la question se pose toujours, alors nos bien-aimés, une fois qu'ils meurent, où vont-ils? Et nous allons discuter un peu quelles sont les différentes philosophies ou pensées humaines à propos de ce sujet. Et nous allons voir aussi ce que la parole de Dieu, elle dit, elle explique par rapport à la mort et d'autres phénomènes qui sont liés à la mort. Alors, nous sommes prêts pour ça? Où sont-ils? Voilà l'une des questions que nous nous posons. C'est l'une des questions les plus importantes. Parce que mes amis, si nous savons où nous allons, ça va aussi faire la différence de la façon comme nous vivons de ce côté-ci de notre vie. C'est-à-dire, selon notre croyance par rapport à ce qui se passe dans notre vie après, cela va influencer et pas mal de fois même déterminer la façon comme nous vivons présentement. Donc, c'est l'un des sujets les plus importants. Selon ma croyance à propos de l'avenir, ça détermine ma manière de vivre présentement. Ensuite, c'est l'une des questions les plus posées. Les gens, n'est-ce pas, partout, d'une façon différente, mais les gens se posent toujours. Que se passe-t-il? Et aussi, comme je disais, c'est l'un des sujets les plus sensibles. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre cœur. Toujours il y a une mère, un père, un frère, un ami, n'est-ce pas, qui n'est plus et que nous aimions. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'explication aussi toujours touche la corde de notre cœur. Et finalement, quelles sont les possibles réponses à cette question? Et nous allons voir quelles sont les réponses que normalement nous trouvons et nous allons essayer de chercher quelle est celle, selon la parole de Dieu, qui nous donne l'espoir et qui nous enseigne aussi à croire davantage. Alors, voici une petite histoire qui va nous mettre un peu dans le contexte. Ce monsieur Victor Solo se lança comme une flèche de la table de la salle d'urgence après avoir été cliniquement mort depuis 23 minutes. Il était à 11h exactement 15 dans cet hôpital aux États-Unis, dans l'État de New York. Et voilà qu'il Solo, 56 ans, à la tête d'une compagnie très prospère, n'est-ce pas, Hollywood, et aussi des films qui sont produits. Il fut déclaré mort à 10h52 suite à une attaque cardiaque après avoir été, n'est-ce pas, été en train de faire son jogging, son exercice. Alors, la question qui se pose, puisqu'il est mort, 23 minutes, que se passe-t-il? De plus en plus aujourd'hui, dans les magasins, dans les revues, dans les livres les plus lus du monde, des histoires, des expériences des gens hors de leur corps gagnent la popularité des gens. Avez-vous déjà entendu que parmi les 10 best-sellers les plus vendus dans le monde, vous allez trouver plus que la majorité exactement des sujets liés à ces genres de situations? Et non seulement ça, même aujourd'hui, si vous allez assister presque tous les films, même les bandes dessinées, les films, les choses, il y a toujours un sujet lié à la question des esprits, des morts, n'est-ce pas? N'est-ce pas par hasard que vous connaissez, n'est-ce pas, les 3-4 films les plus vendus assistés dans le monde? Tous les 3-4 sont liés à des questions de la mort spirituelle et ainsi Harry Potter, n'est-ce pas, comme vous le savez. C'est des choses au-delà d'imaginables. Et ça simplement révèle l'intérêt que les gens, le public, la média, n'est-ce pas, a par rapport à ces sujets. Et voyons que ce n'est pas par hasard, parce que ça fait écho du cœur humain. Alors, il donne lui-même sa version. Je me déplaçais à une grande vitesse, dit-il, vers un voile d'une grande luminosité. D'une manière curieuse, tous parlent de cette luminosité. Les fils et le nœud, ou les fils plutôt et le nœud, où ces lignes lumineuses se croisaient, vibraient avec une intense énergie froide. Il y avait une grille comme une barrière qui empêchait d'aller plus loin. Dès l'instant où j'étais en contact avec la grille, la vive luminosité augmenta avec un aveuglement intensité qui me vida, m'absorba et me transforma en même temps. Voilà qu'il donne son témoignage. Alors, que pouvons-nous dire par rapport à ces expériences? Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, où pouvons-nous trouver une réponse qui soit une réponse que nous puissions croire à ces effets spéciaux? Comme nous l'avons déjà étudié auparavant, dans la parole de Dieu, nous avons découvert que l'une ou la plus importante conséquence du péché, c'est quoi? c'est la mort. Seulement pour nous rappeler, voilà, les jours de nos années s'élèvent, comme dit le psalmiste, à 70 ou plus maximum, pour ceux qui ont un peu plus de santé, à 80 ans. Mais après ça, qu'est-ce qui vient? La mort, n'est-ce pas? Inévitable. Romains chapitre 6, 23, nous lisions, car le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas éviter, puisque nous tous péchons. Nous devons tous y passer. Genèse chapitre 2, verset 17, voilà le message clair que Dieu a donné à nous tous. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est sûr. Et la question donc, y a-t-il d'espoir au-delà du tombeau? Quelle est la réalité? Qu'est-ce qui vraiment se passe avec nos chers aimés ou qui devons-nous attendre à cela? Ma femme et moi, à 3 ans de cela, nous avons eu la joie et le privilège de rendre visite en Égypte. Et incroyablement, presque tout ce qui s'y faisait dans cette civilisation pour l'avenir était en relation avec quoi? La mort. Si vous voyez les tombeaux, n'est-ce pas, des pharaons, des rois d'Égypte, et si vous voyez encore sur les murs tout l'art qui a été laissé là-bas, tous parlent surtout du moment où le pharaon passe de la vie à la mort, il doit traverser le fleuve, comment il doit porter avec lui la monnaie pour payer, n'est-ce pas, celui qui est sur la pirogue, qui doit le traverser de l'autre côté. Et ensuite, quels sont les petits gâchis qu'il doit amener avec lui pour tromper les esprits ici, là-bas? L'histoire est là. La civilisation, n'est-ce pas, égyptienne, est tournée vers quoi? La mort. La mort. Ils ne sont pas tellement pour célébrer la vie, mais la mort. Pourquoi? Depuis des centaines, des milliers d'années, le cœur humain cherche une réponse. Qu'est-ce qui se passe au-delà? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Numéro un, voilà les différentes réponses qu'aujourd'hui nous trouvons en général. Il y a des petites variations, mais en général, voilà. Numéro un, rien ne se passe. Numéro deux, il y a quelques-uns qui croient que si nous sommes des très bonnes personnes, n'est-ce pas, nous n'avons pas volé, nous n'avons pas menti, nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous avons été gentils avec les chatons du voisin. Nous allons vers où? Les ciels. Mais si vous étiez méchant, n'est-ce pas? Alors, votre destinée, c'est brûler là, dans l'enfer. Voilà d'autres qui enseignent ça. Troisièmement, il y a les enseignements spiritualistes qui disent, non, notre esprit, n'est-ce pas, va réincarner, des réincarnations. Et ça, surtout dans les religions orientales aujourd'hui, de plus en plus, nous écoutons ça. D'autres encore sont venus avec l'histoire du purgatoire. Si vous n'étiez pas ni un bon garçon, ni un trop mauvais méchant, vous avez encore de la chance. Vous allez là-bas, vous prenez votre temps pour purifier, pour brûler un tout petit peu, n'est-ce pas? Ou un peu plus, et alors finalement, voilà une décision. Hop, vers le haut, ou alors vers le bas. Mais voilà que c'est aussi un enseignement qui, depuis des centaines d'années, ont été enseignés. Et finalement, il y a quelques-uns qui disent non, nous devenons des êtres spirituels. Alors, où se trouve la vérité? Où pouvons-nous être sûrs? N'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, il y a quelques variations qui sont là-dedans, mais en général, vous pouvez prendre ou l'une ou l'autre et vous allez trouver à peu près une ressemblance dans ces enseignements. Alors, la question est là. Où est la vérité? Où pouvons répondre? Alors, pour essayer de répondre à cela, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que la mort. Mais avant de comprendre qu'est-ce que la mort, je vous propose plutôt de comprendre, en premier lieu, qu'est-ce que la vie? N'est-ce pas? Comme nous avons dit, parfois, comme la civilisation égyptienne, nous focalisons trop par rapport à la mort. Et nous oublions de comprendre d'abord qu'est-ce que la vie. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos de la vie? Qu'est-ce que la vie? Comment la vie est formée? Et voilà comment celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a créés, il nous révèle qu'est-ce qu'il lui, il comprend à propos de la vie. Donc, Genèse chapitre 2, verset 7. Je m'excuse que seulement en arrivant ici, j'ai vérifié que j'ai oublié de mettre les pages pour ceux qui ont la Bible à l'entrée. Donc, je m'excuse, ma faute, mea culpa, comme on dit en latin, n'est-ce pas? Et je vais essayer de faire mon mieux demain pour corriger cette erreur. Mais c'est le premier livre de la Bible à la page 3 ou 4, là. OK? Il dit là, l'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Et voilà que dans un, n'est-ce pas, une action d'amour, il va faire quoi? Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient quoi? Et l'homme devient une âme vivante. Voilà comment, d'une façon simple, la parole de Dieu nous présente qu'est-ce que, ou la réponse à cette question. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est ça. C'est la partie, l'homme, le corps, la partie où Dieu a façonné, plus cette énergie de vie vitale que Dieu donne à tout un chacun. Et lorsque l'homme reçoit de Dieu, n'est-ce pas, ce souffle de vie, qui peut en grec avoir un nom de pneuma ou en hébreu, rua, mais qui tous les deux signifient du vent, du souffle. C'est pour cela que nous avons le pneumatique. En français, le pneu. Parce que dans le passé, comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons dans le pneu? Du l'air. Donc, l'air, les souffles, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vient, c'est cette partie, ces souffles de vie, la vie. Puisque, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous savoir si quelqu'un est vivant encore ou non? L'une des premières choses que nous voyons, c'est s'il a encore fait quoi? S'il a de l'air, respire. Donc, voilà comment la parole de Dieu explique la question de la vie. Alors, une fois que nous comprenons maintenant qu'est-ce que la vie, cela rend la question suivante, n'est-ce pas, plus claire. Alors, qu'est-ce que la mort? Ou qu'est-ce que la mort? Le contraire de la vie. Et la Bible elle-même, d'une façon simple, encore nous donne cette description. Nous la trouvons en Ecclésiaste 12, 9. Ecclésiaste se trouve à peu près au milieu de la Bible. Encore une fois, mille fois, pardon, je vais essayer de corriger cela demain. Mais nous lisons là quoi? Avant que la poussière, dit là, retourne où? À la terre, rappelez-vous, la vie, voilà les poupées de la poussière de terre que Dieu a fait. Il avait un cœur, mais ne battait pas. Il avait un poumon, mais qui ne respirait pas. Alors Dieu a soufflé la vie et l'homme devient une âme vivante. Le contraire, voilà, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Une fois que Dieu coupe, n'est-ce pas, cette souffle de vie, qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Il n'est plus, n'est-ce pas? Il devient encore poussière selon la parole de Dieu. Alors, nous voyons encore le contraire où Genèse 3, 19 où Dieu dit, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, disant à Adam après le péché, après sa désobéissance. Donc, selon la parole de Dieu, d'une façon claire, la Bible dit, la mort est d'une manière simple la cessation de la vie, le moment où notre souffle est coupé, où cette énergie, cette respiration n'est plus. Où Dieu permet alors que ce lien entre lui et nous, qui maintient chacun de nous en vie, soit coupé. Et voilà comment la Bible décrit la mort. Alors, la question, elle demeure toujours. Qu'est-ce qui se passe après ce moment? Selon la parole de Dieu, il n'y a pas de l'indépendance de l'âme vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'homme. C'est-à-dire, cette idée que lorsque nous sommes morts, l'âme de l'homme, elle sort maintenant de son corps et elle va ou vers un côté ou vers l'autre, est inconnue à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit en Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu donna, et nous répétons encore, le souffle de vie. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a mis dans l'homme une âme, n'est-ce pas, avec les noms enregistrés, n'est-ce pas, Araujo Gilberto, et que cette âme, une fois je meurs, elle se dégage de mon corps et elle commence maintenant, n'est-ce pas, à aller vers quelque côté, soit pour effrayer les gens, ou soit pour brûler quelque part, ou aller, n'est-ce pas, jouer de l'harpe encore en autre lieu. Mais la Bible ne connaît pas ce genre d'enseignement, c'est inconnu à Dieu et à sa parole. Alors, encore, comme nous l'avons dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, l'esprit ici, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas dans le sens de l'âme que Dieu récupère avec, n'est-ce pas, l'identité de tout un chacun. Mais comme nous l'avons dit, en hébreu, le mot ici, c'est pneuma, ou plutôt ruach, et en grec, pneuma, ça veut dire tout simplement le souffle, n'est-ce pas? Ce souffle de vie que Dieu communique cette vie, il fait tout simplement permettre que ça soit coupé. Et l'homme, donc, revient poussière, et son âme n'existe plus, selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et quand l'homme, il meurt aussi, selon la Bible, il n'y a plus de la connaissance, il n'y a pas de connaissance. Voyons ce qu'il dit Ecclésiaste 9, 5 et 6. Dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent quoi? Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pour eux plus de salaire, puis leur mémoire est oubliée. Pas de connaissance. Et la Bible continue à dire, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Voilà comment la Bible décrit ce qui se passe après la mort. Contrairement à pas mal d'enseignements que nous avons présentés sur la liste, n'est-ce pas, à tout à l'heure. Plus d'amour, haine. Alors, comment pouvons-nous expliquer quelqu'un qui va vers l'enfer pour brûler, il n'a plus de la haine. Ou alors qu'il va au ciel, il ne peut aimer plus. Il n'y connaît plus rien. Il n'a plus la conscience, n'est-ce pas? Il est dans un état d'inconscience parce qu'il ne comprend plus rien, il ne sait plus rien, il n'a plus la connaissance de quoi que ce soit. Et encore, dit là, pardon, il n'est pas même capable de louer à Dieu. Alors, imaginons quelqu'un qui puisse aller au ciel, il ne peut pas louer Dieu. Il serait impossible. Mais ce qu'il dit la Bible en Psaume 115, verset 17, là dit, « Ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descend dans le lieu du silence. » Soit en montant, soit en descendant, la Bible encore nous parle qu'il n'y a pas de louange, pas de connaissance, il n'y a pas de conscience, ni de la haine, ni aussi de l'amour. Et l'homme ne peut plus louer Dieu nulle part. Et dans le Psaume 6 dit, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours du mort ?» Voilà comment la Bible, d'une façon claire, décrit. Normalement, pour une séance comme celle-ci, nous avons 3 soirées, parce que le sujet de la mort, il y a tellement de versets de la Bible qui mettent au clair ces sujets, que normalement nous prenons 3 soirées. Mais puisque nous avons seulement une semaine, on a dû couper ça et essayer de, n'est-ce pas, prendre comme une pilule. Hein? La pilule, on concentre tous les, n'est-ce pas, vitamines et les choses, et on prend tout petit. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner une pilule. J'espère que vous ayez, n'est-ce pas, une bonne réaction à la fin. Mais voilà pourquoi. Mais il y a des centaines de versets qui nous parlent à propos de ces sujets. Intéressant, la Bible aussi ne nous dit pas que l'homme a une immortalité inhérente, naturelle. Plutôt le contraire. Elle dit en 1 Timothée 6, 15 et 16, qui manifeste en son temps les bienheureux et celles souverains, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, parlant de Jésus-Christ, il dit, qui seul, alors, vous m'excusez, comme vous l'avez déjà aperçu, mon français n'est pas parfait, peut-être ma compréhension du français aussi n'est pas bonne, mais normalement, seul en français, ça veut dire seul, n'est-ce pas? Il n'y a pas trop à apprendre, seul possède l'immortalité. Alors, si je dis que Jésus-Christ est le seul qui possède l'immortalité, ça veut dire que tous les autres ne les possèdent pas. Est-ce que mon français est correct là? Bien sûr. D'accord? Donc, il est le seul qui possède l'immortalité. L'homme n'a pas cette mortalité naturelle. Il doit gagner cette immortalité. Et l'un des sujets que nous allons parler demain, c'est exactement à propos de cela. Quand est-ce que nous allons gagner cette immortalité de la part de Dieu? C'est une science à ne pas rater et je vous invite encore à venir demain. Est-ce que ce sujet, c'est une utopie de la parole de Dieu à propos de l'avenir ou est-ce que plutôt c'est vraiment une solution, une réponse? Alors, qui habite en parlant sur Jésus-Christ, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, la Bible dit que le seul qui possède l'immortalité, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, n'est-ce pas? Pas l'homme en tant que tel. Et la question donc suivante qui se pose, alors, l'âme peut-elle mourir? Selon Ézéchiel 18, 4, qu'est-ce que dit la Bible? L'âme qui pêche, c'est celle qui? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne pêche pas? Qui n'a jamais péché? Hein? Ça veut dire que si nous péchons, nous devons quoi? Mourir. N'est-ce pas? Donc, l'âme, elle, fait quoi? Elle n'est pas immortelle. Elle meurt aussitôt. La personne n'a plus le souffle de vie de Dieu. Alors, voilà ce qui est important de comprendre. Quelle est l'origine de la mort? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu avait dit, rappelez-vous, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et Ève a même ajouté, vous ne toucherez point. Pourquoi? Pour peur que vous mouriez. Alors, la parole de Dieu était claire. L'origine de la mort, c'est par rapport à la désobéissance de l'homme et l'entrée du péché. Et ce que Dieu l'avait dit clairement, si vous péchez, vous allez mourir. Mais, il y a le serpent, les malins. Dieu avait dit une chose, alors qu'est-ce que le serpent dit? Le contraire, tu ne mourras point. Et c'est ce que nous voulons, ou nous voyons en Genèse chapitre 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et depuis ces jours, voilà la grande bataille, les grands conflits entre Dieu et sa parole, et les philosophies et les pensées humaines qui le disent autrement. Dieu dit, les jours où vous allez désobéir, les jours où vous allez pécher, certainement vous allez quoi? Mourir. Alors le serpent dit, non, je vais apprendre à ces gens d'autres choses. Vous ne mourrez point. Et malheureusement, il y a des milliers et des millions de personnes de bonne volonté. Je ne les accuse pas, je ne les blâme pas. Mais qui malheureusement répètent encore ce que le serpent, notre ennemi, a dit depuis le commencement. C'est là l'origine de ce sujet. Et pour cela, j'ai aussi ajouté l'expérience du Christ lui-même. Puisque très souvent, Christ était obligé à courtoyer la mort. Et la parole de Dieu nous parle sur 12 résurrections. Et nous allons voir l'une d'entre ces résurrections. Et qu'est-ce que le Christ lui-même, il nous dit par rapport à l'expérience de cela. Mais certainement, si la Bible registre 12 fois où un homme ou une femme était morte et elle est ressuscitée, certainement cette femme ou cet homme a beaucoup de choses à nous raconter, n'est-ce pas? S'ils sont morts, ils sont allés au ciel ou sont descendus à l'enfer ou sont devenus des esprits, n'importe quoi. Ces gens sont obligés à revenir et nous raconter ce qu'est la mort. Qu'est-ce qui se passe au-delà? Mais donc, Christ avait un ami, nous connaissons très bien son nom, Lazare. Et son ami, pour son grand malheur, était malade. La Bible ne dit pas si c'était, n'est-ce pas, la fièvre porcine ou pas. Mais certainement, il était malade. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il est mort. Et finalement, quand Christ arrive chez cette famille en deuil, il était déjà mort 4 jours. Comme le poisson, vous savez très bien, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Au point même que quand Christ a dit à sa famille qu'il allait faire quelque chose, la sœur même a dit, s'il vous plaît, Non, non, non. Il ne faut pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. Mais voilà que Christ, n'est-ce pas, en Jean chapitre 11, vous lisez cette histoire, il nous apprend la vision du Christ lui-même, le créateur de la vie et du monde par rapport à la mort. Alors, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, il fait quoi? Dort. Alors, tiens, où Jésus connaît quelque chose à propos de la mort, où il est complètement, n'est-ce pas, déboussolé et dans la confusion. Il dit, Lazare, notre ami, il dort. Et je vais faire quoi? Dit Jésus. Je vais les réveiller. Donc, Jésus dit, pour lui, Jésus, la mort est comme quoi? Un sommeil. Et la résurrection, selon ses paroles, c'est comme quoi? Aller réveiller quelqu'un. Et puisque les disciples croyaient qu'il parlait exactement du sommeil comme toi et moi nous faisons chaque soir, les uns un peu mieux, les autres un peu, n'est-ce pas, plus compliqués, les uns un peu plus longs, les autres un peu plus courts, ils ont dit, ah Seigneur, s'il dort, il sera quoi? Guéri. Et la Bible donc a été obligée à mettre les choses au clair. Jésus avait parlé à propos de quoi? De sa mort. Et les disciples ne comprenaient pas. Donc, c'est pour cela que Christ donc dit, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, dans la conception du Christ, la mort, il va la décrire comme quoi? L'état du sommeil, semblable à l'état du sommeil, où il n'y a plus de la conscience, ni de ce qui se passe autour de nous, ni même du temps. Si vous avez déjà fait une expérience d'une journée très laborieuse où vous attendez avec beaucoup d'impatience le moment d'aller au lit et dormir, et aussitôt vous vous couchez, quelqu'un commence à vous, n'est-ce pas, secouer en disant « il faut vous réveiller », vous dites « mais tiens, je viens de faire quoi ?» Dans ta compréhension à toi, les 8 ou 9 heures qui s'est passé dans la nuit, c'était comme une seule seconde, mais je viens de me coucher et ce type, il... Alors nous comprenons, n'est-ce pas? C'est une illustration humaine avec toutes ses faiblesses, je la reconnais. Mais c'est un peu comme ça que la Bible décrit Christ lui-même. La mort pour le Christ, c'est comme quoi? Le sommeil. Mais non, pas un sommeil éternel. Et nous allons voir, n'est-ce pas, quelle est donc la solution à cela. Et la solution, nous trouvons en Jean chapitre 5, 28 et 29. Selon la parole de Dieu, et nous allons parler un peu plus à propos de ça demain, voici la solution du Christ. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, pas que l'heure est déjà arrivée, elle vient dans l'avenir, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Dormir, ils sont morts, selon la parole du Christ lui-même, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour la vie éternelle, et ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Donc, selon la parole de Dieu, c'est dans l'avenir, c'est au moment du retour du Christ, que tous ceux qui sont morts, tous ceux qui dorment, tous ceux qui attendent inconsciemment, n'est-ce pas, ce qui se passe de ce côté de l'éternité, ils seront avec le Seigneur. Ensuite, nous lisons encore en Thessaloniciens 4, 16, la même chose, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. C'est un ange, n'est-ce pas? Les anges sont, n'est-ce pas, divisés en hiérarchie. Et au son de la trompette de Dieu, dit la Bible, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà comment la Bible fait cela très clair. La résurrection ou l'immortalité, nous la gagnerons quand Christ reviendra selon ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 52, ça sont quelques versets, vous en avez assez beaucoup. Encore dit là, il est un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous nous serons changés. Donc, mes chers, selon la parole de Dieu, voilà comment la Bible dit que les choses se passent. Une fois nous mourrons, cette, n'est-ce pas, souffle de vie, l'énergie de vie de Dieu est coupée, nous retournons à la poussière et nous dormons, nous sommeillons jusqu'au moment où le Christ pourra revenir. Et contrairement à ce que pas mal de gens enseignent, nous n'allons pas ni à l'enfer, ni au ciel en ce moment. Nous n'allons pas réincarner ou nous ne devrons pas des esprits. Mais contrairement, nous attendons. Parce que pas mal de fois, c'est comme je dis, c'est très sensible. Vous avez quelqu'un qui vous aime et vous dites, il est là au ciel. Mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un devant les funérailles d'une autre personne en disant combien méchant cette personne était? Non, devant, n'est-ce pas, les cercueils, tout le monde devient un ange, un saint. Parce que personne. Mais les gens comprennent. Alors imaginez pour une mère dont son enfant était, n'est-ce pas, un tueur en série, un serial killer, comme disent les Américains. Comment va-t-elle maintenant vivre vis-à-vis de cette pensée? Est-ce que mon enfant est au ciel ou est en train de bien brûler? Non, mes amis, Dieu a une réponse mieux que ça. Nous tous, nous reposons et nous attendons le moment où Dieu va retourner pour donner à chacun selon, n'est-ce pas, ce que nous avons fait. Alors encore, voilà la réponse. Mais il y a une conséquence de cela. Et la conséquence est, puisque vous avez dit qu'il n'y a rien à cela, comment expliquez-vous ces esprits des gens morts, de nos chers bien-aimés qui reviennent pour s'y communiquer ou qui font des choses? Comment vous pouvez expliquer cela? Ah, mes amis, laisse-moi vous raconter une minute l'expérience de ma belle-mère. Elle est née comme une bonne catholique et après elle est devenue une bonne presbytérienne. Et puisqu'elle croyait à ces choses d'esprit et des choses de réincarnation, et l'esprit ne meurt pas, des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, alors de temps à autre, son père décédé depuis 20-30 ans venait la rendre visite. Et elle habitait avec nous. Elle a dû se divorcer de mon beau-père. Et elle est venue et nous sommes très contents et remerciant Dieu parce que pendant 10 ans, elle habitait avec nous. Mais chaque soirée, elle recevait des visites. Et lui, il venait la secouer, l'embrasser, n'est-ce pas, parler avec elle. Elle avait des expériences comme ça. Et finalement, elle a commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle aimait son papa. Ce sont des choses liées au cœur. Ça lui faisait du bien chaque soir, n'est-ce pas, que son père vienne lui parler. Ça lui faisait chaud au cœur. Alors, comment expliquer ces apparitions? Puisque la Bible dit qu'il explique. Comme nous venons de vous comprendre, n'existe pas. Alors, qu'est-ce que sont ces choses-là? Et ça fait quelques mois aussi, une femme de pasteur, la fille unique, celle qu'elle aimait le plus, n'est-ce pas? D'ailleurs, faire une fille unique, il n'y a comment aimer une autre, n'est-ce pas? Mais vous comprenez, quelqu'un qui a une seule fille, elle est morte dans un accident de voiture. Alors, ça a vraiment détruit tout l'amour de la famille. C'était la seule fille, n'est-ce pas, dans la fleur de la jeunesse. Il quitte le funérail, rentre à la maison, quand la maman rentre dans la chambre de la fille, qui elle rencontre là-bas. La fille qui vient l'embrasser et dit, « Maman, comment tu me manques ?» Alors, comment comprendre cela? Devant ces choses qui sont là, tu vois, tu respires, tu sens, comment est décrit ces réalités-là? Alors, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Clairement, le suivant, de Corinthiens, chapitre 11, 13, 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, bien comme ses anges aussi, se déguise au point même d'ange de lumière. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, la plus grande contrefaçon de Satan sera même imiter la personne de qui? Le Christ lui-même. Donc, si lui, il peut imiter la personne du Christ, est-il impossible que ces gens imitent quelqu'un, n'est-ce pas, des êtres spirituels, quelqu'un à qui nous aimions et qui était quelqu'un de notre cœur? Donc, la Bible dit que voilà comment les choses se font. Et encore, Deutéronome 18, 10, 11, Dieu met en garde, n'est-ce pas, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou personne qui interroge aussi ceux qui sont morts. Et je vais encore en disant Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir, que devons-nous dire? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Alors, mes amis, la parole de Dieu est claire. Cela ne vient pas de Dieu. Et quand soit ma belle-mère ou notre amie, n'est-ce pas? Elle a entendu cela. Nous avons prié avec elle et nous avons dit, « Maman, à partir d'aujourd'hui, quand votre papa apparaîtra, vous lui dites seulement un mot. Un nom, Jésus-Christ, quittez. » Et avec beaucoup de foi, une nuit, nous nous sommes réveillés, elle a eu un cri. C'était un cri horrible. On se réveille dans la maison et on la trouve à genoux à côté de son lit. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il est venu encore aujourd'hui et j'ai répété exactement, il est disparu. Et ça, c'était la dernière fois que son papa ou celui qui, n'est-ce pas, semblait son papa est venu pour l'hanter. Et cette sœur, la femme du pasteur, malgré tout ce qu'elle avait vu, son cœur qui brûlait au-dedans d'elle, elle savait dans son esprit que ce n'était pas sa fille, mais que c'était plutôt les démons qui semblaient à sa fille. Alors, malgré tout ce que son cœur demandait, n'est-ce pas, d'elle, elle dit, en nom de Jésus-Christ, allez-vous-en. Et certainement, l'image est disparue. Donc, voilà comment nous concluons, nous fermons notre message d'aujourd'hui. En 1848, dans les deux sœurs Fox aux États-Unis, a commencé ce que nous appelons le mouvement spiritualiste moderne. Et voilà comment nous voyons cela. Les ministres des religions populaires ne peuvent résister victorieusement au spiritisme. Ils n'ont rien à opposer à son influence pernicieuse. Aussi seront-ils responsables des tristes résultats du spiritisme d'aujourd'hui. Alors, car ils ont foulé aux pieds la vérité, ils lui ont préféré des fables. Ils ont répété les sermons prêchés par Satan à Ève sur l'immortalité de l'âme. Et les gens l'ont accepté comme une vérité biblique. Vous ne mourrez point, dit la parole de Dieu. Tel est le fondement du spiritisme. Tout mouvement spiritualiste s'est basé exactement sur cet enseignement au commencement. Alors, nous prions Dieu pour que nous puissions comprendre ce qu'est la vérité et que Dieu nous aide à vivre selon cette vérité.